Sur le rapport sur le RSA.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc vous le savez, les dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité pèsent de plus en plus lourd dans les budgets des départements. Or, l'État a décidé unilatéralement d'augmenter le montant de l'allocation RSA de 1,7% sans prévoir une compensation de cette dépense supplémentaire. En cohérence avec la Commission exécutive des départements de France, le présent rapport vous propose de ne pas procéder au versement de la part de l'allocation RSA correspondant à cette revalorisation.
À la CAF, hein ? Oui, à la CAF.
À la CAF, évidemment. Décidée par le gouvernement et de constituer en conséquence une provision à hauteur du montant estimé de la dite revalorisation. Je me permets d'ajouter, si, Monsieur le Président, que cette augmentation fait suite à celle de 4,6% de 2024, de 1% de 2023, de 4% de 2022 et de 1,6% en 2021.
Merci beaucoup. Madame Thomas, Gaëlle Thomas.
Monsieur le Président, chers collègues, donc, ce que vous venez de dire dans ce rapport, vous nous faites part de la décision unilatérale de l'État d'augmenter l'allocation du RSA de 1,7%. Effectivement, sans prévoir de compensation pour cette dépense supplémentaire imposée au département. Nous saisissons bien l'intention qui sous-entend cette démarche. Il est en effet crucial que l'État ne laisse pas les départements ni les collectivités, d'ailleurs, à l'abandon, car cette problématique dépasse largement le cadre du RSA. Elle s'applique aussi à d'autres dépenses imposées par l'État. Vous proposez de suspendre le versement de la part de l'allocation RSA correspondant à cette revalorisation en optant plutôt pour la constitution d'une provision, si j'ai bien compris.
Exactement ça.
Nous souhaitons soumettre à votre réflexion deux points concernant votre proposition, qui vont vous plaire, j'en suis persuadée. Premièrement, pensez-vous réellement qu'il soit opportun de geler une aide, une prestation destinée aux plus vulnérables, ceux qui subissent de plein fouet les aléas de la vie quotidienne, ces personnes dont les parcours de vie sont parfois insupportables, pour qui la fin du mois commence dès le 5, méritent notre soutien. Car oui, pour ces familles, même 10 euros en plus, ce n'est pas rien. Ne redoutez-vous pas d'alimenter cette idée selon laquelle, en Côte d'Or et plus largement en France, les problèmes proviendraient des bénéficiaires d'aide sociale ? En cette période de tension, n'est-ce pas le moment d'afficher une solidarité renforcée en procédant au versement de l'augmentation ? Ne pourrait-on pas envisager d'autres moyens de pression sur le gouvernement sans que ce soit sur le dos des plus fragiles ? Vous entendez, tout comme nous, les récits de vie brisée et des parcours parfois insoutenables qui se déroulent sur le territoire. Nous devons exercer nos compétences départementales. La solidarité, c'est sa compétence première et elle est essentielle.
Oui, j'ai bien compris.
La deuxième réflexion que nous souhaitons partager est la suivante. Nous tenons à rappeler ici que le versement des aides sociales est une obligation. Si ce versement n'est pas effectué, en plus de la revalorisation du RSA, des intérêts de retard pourraient également être à payer. En effet, plusieurs décisions de justice ont été rendues. Les démarches entreprises par certains départements concernant l'insuffisance de compensation de l'État relative au versement du RSA ont confirmé qu'il s'agit d'une dépense, je le répète, obligatoire, comme cela a été observé en Corrèze ou en Loire-Atlantique. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas soutenir votre rapport pour ce sujet-là. Nous vous demandons de prendre en considération nos réflexions. Les personnes en situation précaire comptent sur nous tous.
Chers collègues, alors je crois que peut-être j'ai voulu être concise. C'est à la CAF que nous ne verserons pas le pourcentage d'augmentation. Le bénéficiaire, lui, aura bien ses droits ouverts et payés par la CAF. En fait, nous mettons la pression à l'État parce qu'à un moment donné, la CAF va dire « Mais attendez, nous, on n'y arrive pas. » Et comme nous n'arrivons pas à négocier avec l'État pour avoir ce cofinancement paritaire, nous n'exigeons pas que l'État prenne complètement somme, mais au moins à parité, ce qui me paraît bien normal, eh bien, nous sommes obligés d'avoir ce genre de process. Vous observerez que c'est une décision de la commission de l'exécutif de département de France, dans lequel siègent toutes les sensibilités politiques et que ce positionnement a donc été unanime. Et il est important que nous soyons fidèles à ce qui a été décidé en collectif. D'autre part, vous parlez de l'engagement auprès des personnes en insertion. Je crois qu'en la matière, le département ne peut pas, sa volonté ne peut pas être remise en cause. Je vous renvoie au document qui est d'ailleurs sur votre table, qui vous rappelle tout ce que nous avons mis en place dans l'accompagnement global des personnes en situation d'insertion. Comme je l'avais dit, 1 million d'euros par jour dans les solidarités, on ne peut pas dire que le département désarme et qu'il n'est pas aux côtés de chaque Côte-d'Orient, quelles que soient les difficultés qu'il traverse. Oui, faut
bien vous dire que... Moi, j'entends tout ce que vous dites là, ça fait l'objet de débats au sein du département de France et d'outre-mer. Aujourd'hui, nous avons pris la décision, tous les départements de France, de ne plus accepter la moindre charge supplémentaire concernant notamment les allocations individuelles de solidarité sans qu'il y ait concertation préalable et compensation. Voilà, c'est une question de principe. Donc, effectivement, nous avons eu ce débat, Madame Thomas. Simplement, ce qu'on a dit, c'est que c'est la CAF qui paye les, concrètement. Donc, effectivement, c'est une mesure dont nous savons que c'est susceptible d'avoir des intérêts, que c'est susceptible d'aller en justice, mais en même temps, c'est une mesure symbolique que nous avons prise. Nous ne pouvons plus accepter des charges qui ne sont pas compensées. Ce n'est pas la légitimité de l'augmentation qui est contestée d'une manière très générale. Encore que ça a fait l'objet de débats dans le département de France. C'est le principe de charger la barque. C'est tout. Et donc tous les départements de France unanimes l'ont voté. Alors moi, je veux bien que vous démarquiez. Moi, j'accepte, hein, mais je prends là la casquette de président du département de France. Enfin, la casquette, je prends là la responsabilité de président du département de France pour vous dire que, et à un moment donné, il faut dire stop au gouvernement, il ne peut pas se servir de nos départements comme d'un puissant fonds pour aller financer des mesures qu'elle décide seule. C'est exclusivement ce que nous disons. Donc il n'y a pas de débat d'opportunité ou pas d'opportunité. Nous nous sommes interrogés sur l'opportunité, mais là, en l'espèce, puisque c'est la CAF qui paye, ça risque juste de poser un problème de trésorerie à la CAF qu'elle-même doit se retourner aussi vers le gouvernement pour lui dire dans les conditions dans lesquelles elle souhaite exercer des nouvelles responsabilités. Et ça vaudra aussi pour la CNSA. Bon, on a décidé ce principe. Et je vais même vous dire, les départements de gauche m'ont même reproché un accord que j'avais passé avec le gouvernement pour sortir du problématique, en tout cas ponctuellement et partiellement, de la problématique d'extension du Ségur avec un engagement pour 2025 à 50-50 de la part du gouvernement. Alors, vous voyez, on est une situation à front renversé, là. C'est quand même très étonnant, vous voyez, votre position. Enfin, moi, faites comme vous voulez, mais c'est juste une position de principe sans préjudice pour les intéressés. Donc là, je ne rentre même pas le fond du RSA. Je ne veux pas rentrer dans le fond du bénéfice ou non du RSA, puisque cette décision a été prise et que les bénéficiaires du RSA la bénéficient. C'est une position de principe. On ne peut plus accepter de se voir imposer des dépenses dans le contexte dans lequel nous sommes confrontés. Voilà. Sans qu'il y ait préalablement, je précise bien la phrase, concertation et compensation de la part de l'État. Nous ne sommes pas le puissant fonds, nous ne sommes pas le puissant fonds des dépenses de l'État. Voilà. Monsieur Patrick Audard, puis monsieur, Madame Thomas, puis monsieur Avena. Vous voulez reparler, Madame Thomas? Je vous le redirai après. Monsieur Audard.
Oui, monsieur le président. Je reprends votre dernière phrase. On ne peut plus accepter que l'État nous impose des charges supplémentaires non compensées.
Et nous discuter préalablement. Voilà.
Pour ma part, sur cette matinée, je note deux choses qui m'inquiètent pour la population, notamment de Chenôve, et en particulier le quartier du Grand Ensemble où il y a un taux de pauvreté extrême. Les chiffres, vous les connaissez. Première question, elle concerne le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur... je ne refais pas le débat. Refaire, hein. Vous inquiétez pas, je D'accord. suis très Merci. Synthétique.
Merci.
Première question, la question des tarifs de cantine et du taux unique adopté.
Non, mais celle-là, elle est réglée. Contre... Elle est réglée. C'est le débat d'avant, ça.
Non, je suis contre, mais je les mets en relation. Je suis contre pour une raison extrêmement simple. Ce sont les effets inégalitaires. La deuxième question, c'est la question du RSA et de la non-compensation de la hausse imposée. La personne, au final, qui aura à être pénalisée par cette mesure, qui est juste dans son principe... ce seront forcément les populations, encore une fois, concernées.
Non.
Donc.
Non, vous n'avez pas compris.
Donc,
c'est la CAF qui paye.
Je vais.
Nous compensons
non,
la
mais
CAF.
C'est, si la CAF, oui. Mais c'est.
Ah bah non, mais si. Si
alors ma donc, moi, je. Non, je pose une question simple. Je pose une question simple, parce que nous avons une multiplication de mesures de cette nature. J'aurais souhaité que l'on puisse décider au niveau du département que nous ayons une étude d'impact des mesures budgétaires sur les populations, notamment en fonction de leurs revenus, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir poser la question de ce que doit l'État aux collectivités et aux populations. Donc je souhaiterais que l'on puisse avoir une étude chiffrée et catégorisée afin de pouvoir poser le problème du montant d'impact sur les populations.
Ce n'est pas le sujet. La décision a été prise par l'État. L'État, par la voie de la CAF, payera, enfin, a imposé à la CAF de payer. Donc,
cette augmentation.
Nous, c'est simplement que nous avons décidé, comme la décision de l'État, c'est nous qui la finançons. Et la CAF qui la paye, la CAF va payer aux habitants, c'est sans préjudice pour les habitants. Simplement, nous nous disons, on en a assez, mais collectivement, tous les départements de France. D'autre part, le diagnostic, il est fait, l'impact, il est fait. Sur les AIS, nous sommes à moins de 50% de compensation du RSA par l'État, là où au moment de la création du RSA, nous étions à un taux de compensation et de couverture de 88%. Le diagnostic, il est fait. Je vous invite à vous rapprocher de votre groupe de gauche pour vous informer du diagnostic que nous avons fait l'ensemble des départements de France. L'évolution du handicap, le taux de couverture est aujourd'hui de l'ordre de 30-34% selon les départements. Et même, il y a des départements, notamment de la couronne parisienne, parce que nous avons hérité de situations différentes, qui sont couverts à 27%. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, toute mesure supplémentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre département, ben, le diagnostic, il est tout fait, tout vite. Nous avons 100 millions d'euros de dépenses pour les personnes âgées. Oh, maintenant, 100 millions d'euros de dépenses pour les personnes handicapées, à équivalence. Mais vous imaginez. Et sur les AIS, en Côte d'Or, aujourd'hui, nous sommes compensés 34 ou quelque chose comme ça, % sur le handicap. Moins de 50, on va bientôt être à moins de 50 sur le RSA.
48.
Et on est 48.
48,8.
48,8 sur le RSA. Et on est compensé sur la PA, 46 parce qu'il y a une mesure récente qu'on a obtenue de la part de la CNSA. Donc, la révision des concours. Donc, si vous voulez, la position de principe, c'est que nous voulons obtenir 50-50 de participation de l'État aux charges des allocations individuelles de solidarité pour ne pas faire supporter au département la charge de tout effort supplémentaire. Moitié-moitié. Et une fois qu'on a cette parité, que chaque fois qu'il y a une mesure sociale qui est prise, effectivement, comme vous le suggérez, mais ça s'adresse à l'État, qu'il y ait une étude d'impact pour savoir qui va payer et quel sera l'impact. Voilà. C'est tout ce que nous disons. Et nous le disons ensemble. Alors, si le groupe ici veut manifester sa singularité, moi, je n'ai pas de souci, mais faut vraiment, il y a vraiment un problème de cohérence politique dans quel cas, au niveau de tous les départements. Il y aurait dans ce cas-là un problème de cohérence politique. Donc voilà, je vous ai tout dit, on ne va pas prolonger le débat. Monsieur Dard, je donne la parole à Gaël Thomas, puis à votre président de groupe. On ne va pas prolonger, monsieur Dard.
Je voulais juste dire que je suis en accord avec votre raisonnement et la question que je pose, c'est qu'à un moment donné, on puisse chiffrer tout ça.
Ah ben d'accord. À un moment donné, il faudra que vous vous retourniez vers la députée Madame Hervieux pour savoir comment ça va se passer au Parlement.
Mais
parce que le vrai sujet derrière,
et vous,
il est là.
Et vous, auprès du gouvernement?
Ben, c'est ce que je fais, là. J'ai même été élu pour ça. Je dois vous dire, si vous suivez à peu près ce que je dis, vous voyez une certaine cohérence à ce que je dis ici, à Paris. Hein. Il n'y a pas de friture sur la ligne. Hein. Surtout que je pense à ce que je dis et je dis ce que je pense au nom des départements de France. Madame Thomas.
Oui, donc on a bien deux sujets différents. Je répète qu'on on vous soutient dans cette démarche de pression au gouvernement.
C'est voilà. Pas dans ce c'est ça, là, mon c'est exactement ça. On ne rentre pas dans le fond du débat sur le RSA. Pas le sujet aujourd'hui.
On ne parle pas de cette chose-là. Mais par contre, nous, on se demande pourquoi justement ce sujet-là. Parce qu'il y a d'autres sujets par lesquels on venir. Pourrait faire pression.
Pourquoi ? Parce que nous avons eu l'extension du Ségur. On a fait une négociation, même le groupe de gauche et certains de mes amis politiques n'étaient pas d'accord pour la négociation. J'ai dit qu'il ne faut pas fermer la porte au gouvernement. Donc nous avons négocié pour l'année 2025 sur l'extension du Ségur. Ensuite, chronologiquement, c'est le RSA qui est arrivé, mais nous avons posé une question de principe, c'est que pour toute dépense nouvelle, y compris les conventions collectives, etc., on a dit qu'il n'y aura pas d'application, on ne financera pas dépenses nouvelles, je répète la phrase, sans qu'elles soient concertées avec nous et compensées par l'État parce que nous allons, dans le mur. Et donc aujourd'hui, alors que les dépenses globalement qui nous sont imposées par l'État, représentant social, imposées par l'État pour l'essentiel, représentaient 58%, on en est aujourd'hui à 70%. Voilà, non compensées. Donc vous imaginez bien qu'il y a un moment donné... Tout ça va s'arrêter. On va droit dans le mur. Monsieur le Président Avena.
Oui, c'est juste pour vous demander une suspension de séance de très, très peu de temps. Je sais que le temps nous est compté. 4 minutes seulement.
Bah, écoutez, allez. Comme le temps nous est compté, prenez 2 minutes, revenez vite.